bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadamboudadi, Daniel Morin,
bonjour Maggie,
Frédéric Sinis,
salut
Albert,
bonjour
Alexis Le Rossignol, Tanguy Bassuro sera là tout à l'heure, et notre invité monsieur Olivier Martin.
Bravo
Olivier,
bravo.
Salut. Qui a dit salaud? J'ai entendu
Albert.
Un salaud.
Hein?
Ah non.
Oh,
j'ai entendu un salaud au milieu du bras.
C'est pas moi.
Tu sais d'où ça vient.
C'est moche. C'est
moi.
C'est moche. Ravi de vous accueillir, Olivier Marchal. On va parler des rivières pourpres qui seront ce lundi 26, lundi prochain, 21h et 22h de numéro diffusé sur France 2. On va l'évoquer dans quelques instants, mais apparemment vous connaissez bien la bande qui est autour de cette table. Est-ce que l'inverse est réciproque? Interrogation. Connaissez-vous bien ou pas?
Je suis pas sûr que moi. Vous me connaissiez déjà.
Ouais, c'est un petit nouveau, Alexis.
Ouais, ouais. Ouais. Mais je suis ravi.
Pourquoi?
Pourtant, bon, il est disgracieux.
Bon, oui.
Pourquoi? Oui, il fait serial killer plutôt.
Un petit
Alexis,
peu, ouais.
Mais non.
Pourquoi, à la suite d'une rédaction à l'école, le professeur de français a-t-il convoqué les parents d'Olivier Marchal?
Parce que c'est le récit était beaucoup trop sanglant, c'était criminel, ça faisait peur. Ouais, je savais que j'allais avoir un point.
Ouais. T'as triché?
Non, bah.
D'où elle est, on va très bien aller voir.
Je cache.
C'est les choses que vous
savez. Je connais Olivier,
pas, parce que c'est tout le problème.
Mais
c'est pas comme ça. D'autres rapports
mais
que
voilà. Comment ça va? Arrêtez, arrêtez.
On se dit beaucoup de choses sur l'oreiller, tous les deux.
Vous vous souvenez de l'histoire?
Ça avait commencé en garde à vue.
Olivier Marchal, vous souvenez-vous de l'histoire qu'il y avait dans cette rédaction?
Ben, c'était Promenez-vous en forêt, je crois. Donc, c'était un thème, une rédaction en quatrième. Et moi, ça commençait par, évidemment, l'éveil des champignons.
Ah ouais, ça.
Les arbres qui prenaient la couleur automnale et tout, puis à un moment donné, je découvre une nana attachée à un arbre.
C'était l'éveil du champignon.
Qui était torturée par des mecs et je la sauvais. Et
vous
voilà,
avez quel âge?
J'avais 12 ans.
Eh ouais.
Et elle a dit, elle a confié ma mère, elle a dit, je pense que.
C'est déjà les rivières pourpres.
Oui, c'est ça. Là, ça finissait, c'était sanguinolent, quoi. Donc, bon.
Qu'est-ce qu'Olivier Marchal apporte souvent sur les plateaux pour entretenir une bonne ambiance?
Du pinard,
la cocaïne.
Pas du pinard.
Du pâté.
Non.
Du Beaujolais.
Non.
Des femmes.
Des fleurs.
Des hommes.
Non.
Du parfum.
Du
poppers.
Des chiens. Des champignons.
Mais arrêtez de prendre pour un dealer de drogue, c'est pas possible.
Des champignons. C'est son univers.
Des chocolats, des gâteaux. C'est pas alimentaire, donc.
Si.
Un livre de blagues.
Si.
Des choucroutes.
Des pastilles Vichy.
Des choucroutes, des bonbons.
C'est alimentaire.
Des caramels.
Des cassoulets. Tu prends comment?
Tu fais des repas de passé Vichy, toi?
Ben oui, carrément. Je suis basé à Arcachon, ça devrait
vous aider.
Mais arrête.
Non, quoi, les huîtres entretiennent la bonne humeur?
Parce que
je fais souvent des pots avec des huîtres et du vin blanc sur mes tournages. Voilà.
Et genre aujourd'hui, non.
Qui est apprécié.
Il y a pas d'amis.
J'ai arrêté de boire.
Il n'a pas d'amis ici, c'est pour ça. Quel programme télé énerve Olivier Marchal?
Des chiffres et des lettres.
Danse avec les stars.
Faites entrer l'accusé.
Attends,
c'était méchant, les chiffres et les lettres.
Oui. Je voudrais connaître votre opinion sur les chiffres et des lettres, Daniel Morin, sur Danse avec les stars, Leïla.
Bah, je sais pas. Ok,
merci.
Ça peut être agaçant.
Et puis,
des gens qui dansent.
Et Laurent Romeshko.
N'oubliez pas les paroles.
Non.
Oubliez les paroles.
Non plus.
Non.
Les informations.
Non. Qu'est-ce qui l'énerve à la télé?
Vivement dimanche.
Les reportages sur la police.
Exactement.
Ouais. Ah.
C'est bien Léla.
Merci.
Les reportages.
Mais vous couchez souvent ensemble.
Soi-disant. Les soi-disant in situ. Les soi-disant. On les suit dans le vif du sujet.
C'est embedded.
Ça oui, parce que je trouve d'abord c'est toujours très consensuel. Et puis après on.
Parce que c'est faux d'abord.
Non, mais on montre toujours des choses. C'est-à-dire, c'est la façon. C'est des faits divers qui sont traités quotidiennement par les films. On met ça la façon aussi comme si c'était Bruce Willis dans Piège de cristal. C'est souvent des histoires.
Dans l'interview, c'était dans Le Monde que vous avez déclaré ça. Vous étiez plus sévère. Vous n'avez pas dit c'est Bruce Willis dans Piège de cristal. On a l'impression que ce sont les inconnus en Gardien de la Paix.
Souvent, c'est-à-dire ils interviewent ils interviewent pas les meilleurs, je trouve. Voilà, c'est. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est souvent, ils prennent le cliché
Olivier,
du mec, c'est très consensuel.
Ils interviewent celui qui accepte,
oui,
déjà,
qui
dans
accepte
temps.
Et puis qui dit pas grand chose, quoi.
Qui
c'est la langue de bois, quoi. Donc, c'est un peu, puis je trouve que c'est dommage de dévoiler un petit peu la façon dont les flics travaillent. C'est un peu maintenant comme les making-of sur les tournages, il n'y a plus de magie du cinéma. Mm-hmm. On filme tout maintenant. Non, mais c'est
vrai. Il faut garder le rêve de la police.
Oui. D'accord. Mais, oui, c'est bon, ça, s'il en reste un.
C'est ça.
Il est dans le partage.
Un jour, ses collègues arrêtent trois jeunes qui se sont introduits dans le jardin du Luxembourg la nuit. Mm-hmm. Pourquoi, grâce à Olivier Marchal, ont-ils été très vite relâchés?
C'était son fils.
C'était les inconnus.
Il a 9 ans.
Mais on ne sait jamais, hein, on peut être précoce.
C'était les amants d'Olivier.
Non. C'était des enfants de quelqu'un?
Non.
Qu'on connaît, non?
Non.
Ils ont été,
C'était des triplés siamois.
Ah, ça, non. Y va. Ah, ça y va. Je regrette pas de mettre le
mot. Je cherche pas la réponse. Des enfants de sénateurs.
Ils étaient mineurs, ils étaient, ils étaient sous. Nus.
Ils étaient mais non, mais Daniel, alors, c'est à l'antenne ce que tu dis.
C'était des enfants cachés de Gérard Larcher.
Non.
C'était Gérard Larcher.
Non. Des enfants. Trois.
Trois enfants.
Ils étaient perdus.
C'est pas des enfants, d'ailleurs, ce sont des jeunes.
Ils étaient perdus.
Ah, c'était trois nains.
Non.
Ils étaient perdus.
Non.
Ils étaient. C'était en fauteuil roulant?
Non.
Non.
Ah, voilà, voilà, voilà Alexis, la main sur le cœur.
Alexis,
c'est bien.
Ouais. Vous pouvez faire mieux. Hein.
Grâce à Olivier.
Il les
connaissait. C'est pour ça que.
Ah, c'est les enfants de copains?
Il est, non, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour qu'ils soient
relâchés. Les enfants
de salauds? Non. C'est pareil.
Les enfants d'acteurs?
Non.
Alors, s'il les connaissait, c'est pour trouver le lien. Tu veux qu'on trouve le lien?
Oui.
Ils habitaient dans son
immeuble. Des neveux, des nièces, des cousins, des enfants.
Ils s'étaient perdus?
Non.
Ils sortaient de garde à vue?
Non. C'est un rapport avec son art, son métier.
Des enfants d'acteurs.
C'était des comédiens,
c'était des fans
des
de cinéma. Ils adoraient.
Non.
Ah, des comédiens.
Je vais prendre Alexis, oui. Enfin, je vais prendre la réponse
d'Alexis.
Non, je prends la réponse.
En direct, là,
je vais prendre la réponse d'Alexis dans ce qu'il faut. Je prends la réponse d'Alexis. C'était des élèves avec lesquels vous travailliez.
C'était des copains de cours de théâtre, ouais. Ah. Ouais.
Voilà. Ils avaient fait quoi comme boulette?
Oh, c'était rien. Ils avaient passé les grilles du jardin de Luxembourg. Et puis, comme il y avait quand même quelques institutions à côté qui étaient gardées. Ils ont été contrôlés. Ils fumaient des jointos et tout ça. Enfin, voilà.
Rien de grave.
Non, là, c'était vraiment. Non, c'était anodin.
Le quotidien du jardin du Luxembourg.
Voilà, ouais.
Où ça,
ouais.
Ils avaient attaché deux sénateurs à un arbre.
Oui. Et l'image. Et Olivier.
Alexis. Ah, il en a fait deux, là. Elles sont belles.
C'est bien, Alexis.
Où ça, anodin, il me dit. Oui.
Très bien.
Ça s'est passé anodin. Ouais.
Est-ce que. Oui, j'avais compris. Merci, Olivier.
Oui,
quel était le surnom donné à Olivier Marchal par ses collègues policiers, justement, quand il a commencé en même temps sa carrière de comédien et il était à la police toujours?
Gargamel.
Julie Lescaut.
Nounours. Émile Louis. Émile Louis. Non.
C'est rien avec les gendarmes à Saint-Tropez.
Certainement.
Le Colombien.
Miami Beach. Non.
Je vais partir, je vais quitter l'émission.
C'est quoi, c'est un flic de cinéma?
Belmondo. C'est un lien avec votre physique.
Alors, c'est l'idée.
Delon.
Melville,
non.
Bourville.
C'est un lien avec le physique.
Ça a un lien pas avec le physique, non.
Il y avait un rapport quand même.
Ah bon,
quand
même. Ah bon, Casimir.
Mérine, non, un truc à la.
Non, ça a un rapport avec son métier de comédien.
Ouais, bah oui.
Starsky. On le surnommait, pas le métier de policier, non. Mais le métier de comédien.
C'est en lien avec l'acteur. Un comédien connu?
Oui, mais alors lequel?
Ah, c'est le nom d'un acteur.
Ouais. Ouais. Pas
d'accord.
De Niro,
c'est pas
un
Rému. Non, un Américain.
Un Américain, c'est pas
Rému. J'avais l'affiche du film dans le. Voilà, c'est à cause de ce film que je voulais
Al Pacino.
Montrer la police. Voilà, c'est Al Pacino.
Ah. Alors moi, j'avais pas ça comme surnom.
Non, mais mon surnom, c'était Serpichal. Parce que Serpico et Marshall, voilà.
Non, moi j'avais pas ça comme comédien, comme van entre guillemets. Tiens, c'était pas tiens, voilà De Niro.
Déjà, l'autre c'était Huster.
Francis Huster.
C'était
ce qui est pas
Huster.
Vraiment le même, le même niveau que De Niro.
Ah, c'était ça.
Ah, Francis Huster avec une barbe. Hein.
Non, mais Serpichal.
T'es fantasme, ne regarde que toi.
Non, mais Serpichal, c'est parce que j'avais l'affiche de Serpico dans mon bureau.
C'était vachement bien, Serpico.
De Niro qui avait le bonnet, la barbe.
Serpico a vraiment
Pacino.
Serpico a vraiment existé.
Oui, il existe encore, il est toujours vivant.
C'est vrai?
Oui, il a lutté contre la corruption dans les services de police américains. Et comme
il
dans
est toujours
film,
vivant.
Ses collègues lui ont tendu un piège, il a pris une bastos, il a perdu, je crois, beaucoup de.
Ses collègues lui ont tendu un piège?
Oui, ouais, sur une arrestation de dealer, ils l'ont fait exprès, ils l'ont laissé se faire coincer et se faire descendre.
Donc c'était dérivé?
Ah non, mais. Oui, bien sûr. Bah, à un moment donné, c'est la corruption, quand même.
Touche la police.
Existe, ouais, vraiment. Et j'ai d'ailleurs une photo de Sidney Lumet. J'ai rendu hommage à Sidney Lumet au festival de Deauville. Mm-hmm. Ça en bouge un coin, là. Là, oui. Mm-hmm. Là, c'est plus Casimir.
Là,
on parle
c'est
plus de Casimir. Et il m'a laissé une photo de lui en disant c'est tout Serpichal from Sidney. Voilà, je l'ai dans mon bureau.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai,
il avait 84 ans. Et j'adorais ce metteur en scène.
Parlons de cette série. Il y aura 4 soirées sur France 2. Tous les lundis, les Rivières Pourpres. Alors, c'est toujours Jean-Christophe Granger. C'est lui d'ailleurs qui a initié la série. Oui. Mais c'est une. Comment on va dire? Ça reste dans l'esprit du film. Ce n'est pas une adaptation du film. ni durement.
Non, non, pas du tout. Non, non. Disons que les rivières pourpres, ça sonnait bien, je pense. Et puis, ça représente un petit peu l'ambiance. Voilà.
On est toujours dans le meurtre.
On est dans des milieux, dans des communautés un petit peu spéciales. Bon, chez des moines, chez des pensionnats un peu glauques.
Il y a un point commun. Vous êtes tous les deux avec la comédienne Merci belge qui joue extrêmement bien,
super,
ravissante comme tout, mais en plus elle joue bien. Donc ces deux-là sont envoyés par le procureur sur des affaires de crimes en série, envoyés d'une manière soit très officielle, soit déguisée sous de faux prétextes pour aider les gendarmes sans vexer les gendarmes. Alors, c'est ça qui est assez intéressant tout le long des épisodes, c'est qu'à la fois vous débarquez de Paris avec votre savoir-faire et en même temps il faut marcher sur des œufs pour ne ni vexer les gendarmes ni vexer la police allemande, puisqu'il y a aussi des enquêtes qui sont faites
en zone frontalière.
Enfin, foutez un peu de vexer le.
Oui, parce que c'est le personnage de Nîmes, lui. C'est un flic un peu bourru, qui pète un câble assez vite. Il a un problème avec la violence contenue, et de temps en temps, ça part. Quoi.
Et un problème avec les chiens aussi.
Il a été traumatisé quand il était gamin.
C'est ce qu'on découvre.
C'est ce qu'on a gardé du film, d'ailleurs, des rivières pourpres. C'est la peur des chiens.
C'est ce qu'on découvre dans le premier épisode, d'ailleurs. C'est assez rapidement expliqué. De ce que j'ai saisi, c'est une coproduction, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens allemands qui viennent aussi. Comment on joue avec des comédiens allemands dans une série
On se méfie. On a eu la chance d'avoir en Allemagne, ce sont deux grosses vedettes, là, la baronne et puis le flic. Non, vraiment, c'est deux grosses vedettes de la télé allemande.
Si vous les appelez comme ça, ils vont être contents. La baronne et le flic.
Non, mais pas du tout. C'est vrai que on a tourné il y a un an et.
Ken Duken.
Ken Duken, voilà.
Ken Duken et Nora Wallstetten.
C'est pour ça que j'ai pas retenu. Voilà. ils sont adorables. Et vraiment,
Il est beau gosse, le Ken Duken.
Ça m'a un peu. Ça m'a énervé assez vite. Ils ont été hyper professionnels. Ils travaillent à l'américaine, quoi. Ils avaient un coach et ils apprenaient les textes en français et ils jouaient en français
sans blaguer.
Ouais, vraiment. Ils jouaient pas en allemand, ouais. Non, ils ont fait un effort, parce que moi, si je devais jouer en allemand...
C'était autre chose, d'accord.
Ouais, non, mais voilà.
Une série qui est réalisée... Alors, il y a différents réalisateurs qui se succèdent. Yvan Fégivert, Julius Berg, j'imagine que c'est le réalisateur allemand.
Il est français.
Julius Berg.
Ouais.
Ça sonne bien... pardon, mais quand j'étais dans une coproduction, je me disais tout était...
Il me fatigue.
Et la xénophobie. La musique de David Reyes n'est pas espagnole, contrairement à ce qu'on peut écouter.
Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure,
C'était ça ma question, parce que comme il y a différents réalisateurs que Erika Sainte elle-même vient de réaliser aussi un film. Ouais. Vous aussi, vous n'avez pas eu envie de vous mêler, Erika, de la réalisation?
Non, pas du tout. Quand on est acteur, moi je reste à ma place, franchement.
Parce que c'est
indélicat de dire tiens moi j'aurais fait ça, moi j'aurais
pas mais je vais réaliser.
C'est-à-dire on a discuté beaucoup des costumes, du look, des trucs comme ça, là-dessus. Mais après sur le plateau,
ça vous a pas tenté de réaliser?
Non, parce que dans mes films, quand je réalise, je suis pas acteur, c'est trop de travail.
D'accord.
On se lève à 4h, on se couche à minuit, 1h. Pas parce qu'on va au restaurant ou en boîte, parce qu'on travaille aussi le soir, on prépare les scènes du lendemain.
C'est marrant ce besoin de se justifier.
Je vois votre regard malveillant là.
C'est son regard normal.
C'est celui que j'ai tout le temps.
Je me rappelle d'une émission à Cannes, je crois, c'est ça, non?
Vous m'avez bien aidé. Hein.
Oui, bien sûr.
Quand vous étiez murgés à l'antenne tous les deux?
C'est-à-dire que j'étais directement de boîte de nuit. On avait fait un petit after à Cannes au festival et j'ai enchaîné l'émission derrière.
J'ai vu des caniches qui avaient l'air plus humains.
Et ça, j'y ai droit chaque année. Donc, on fait chaque fois qu'on se voit.
Alors, les thèmes abordés, ce sont... Il y a toujours un côté crime en série dans les Rivières Pourpres. C'est votre métier, de toute façon, c'est cette brigade OCCS.
Elle n'existe pas, mais c'est l'office central des crimes spéciaux, je crois, ou les crimes en série.
Et donc vous êtes envoyé par le procureur systématiquement. Les prétextes sont pas toujours exactement les mêmes. C'est soit religieux, soit sexuel,
Il y en a un dans la famille allemande, là, c'est dans le milieu de la chasse à courre, mais avec des Allemands, qui sont un peu... c'est là on rentre dans la haute aristocratie allemande où il se passe des choses pas bien. Après il y a les moines.
Non, mais la chasse à cours, ça commence. Je me suis dit, est-ce que c'est quand a été tourné cet épisode? Parce que ça commence en disant la chasse à cours est interdite dans leur pays, ouais. En Angleterre ou en Allemagne, donc ils viennent en France pour ouais. le faire. Tout ça juste après tout le débat de notre président qui a autorisé ouais. et qui veut remettre la chasse à cours à l'honneur pour inviter justement les présidents des autres pays venir ouais. chasser en France. Il ouais. Y avait un message
non, c'était en
écologique,
août,
politique.
L'année dernière, c'était
ah ouais, rien à voir. Prémonition alors.
Prémonition.
Incroyable.
Et
incroyable.
On a tourné en Belgique. Dans les Ardennes.
D'accord. Non, il y avait quelques messages de valeur également portés par Erika qui dit « Moi, je préfère les animaux, je les préfère vivants que de les tuer à la chasse. » Et il y a toute cette notion de la... comment s'appelle cette chasse ?
La pirche.
La pirche, voilà. La noblesse de la chasse, c'est-à-dire affronter que le mâle et presque les yeux dans les yeux en étant sûr que qu'il saurait se défendre, cette proie saurait se défendre. Mmh. C'est ça.
Ouais,
j'ai pas tué n'importe quel animal.
J'ai appris que ça existait, ça. Je suis pas du tout branché là-dessus.
Chasse.
Non, mais on apprend des choses. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est... Mmh. Regardant la série.
Non, mais je
non, parce que Granger, ce qui est bien, c'est qu'il s'appuie quand même sur des choses, des légendes ou des mythes, en fait,
historique.
Donc, il part de choses, voilà. Oui. Il arrive à mélanger tout ça.
Comme les
et
fresques.
À partir dans ses délires.
Comme les fresques
d'écrivain.
Des moines, comme les fresques des moines qui sont cachées ouais, derrière les fresques réelles et ainsi de suite. Mmh. Il y a cette main que l'on retrouve coupée, ça c'est dans un autre épisode. Je fais exprès de donner que le début. Non, je fais exprès de donner que le début pour pas déflorer ce qui se passe. Une main trouvée dans une décharge publique. Et là aussi, c'est le prétexte. On dit, mais soi-disant, allez-y pour cette main coupée. Mais il y a aussi des crimes en série qui se passent autour.
Ouais.
On peut pas faire l'enquête pour pas vexer les gendarmes. Donc vous allez là-bas sous prétexte d'eux. Et puis après, vous débrouillez sur place.
C'est exactement. Ça. Exactement.
On est dans le monde du non-dit et de la magouille. Et tout ça, c'est quoi? C'est très psychologique comme enquête. Il y a un peu d'action, mais c'est surtout c'est.
Oui, il y a beaucoup de réflexions. Il y a des jolies scènes d'action, oui, quand même. Et après, c'est vrai que c'est le principe de Jean-Christophe Granger, c'est assez anxiogène, quoi.
Ouais.
Voilà,
c'est étouffant.
Donc,
ouais.
C'est vrai que la production a mis quand même le paquet sur les décors, sur la mise en scène, sur l'image,
le
traitement de l'image, sur les objectifs qu'on avait et tout. Il y a une image assez cinéma, quand même, soit pour faire que ça soit de la belle ouvrage, comme disait
mon père. C'était une condition pour accepter. Ça justement enfin, avant de tourner, est-ce que vous renseignez justement
ouais,
sur
un petit peu ouais parce que bon il y a des choses qu'on
fait j'imagine pardon que le nom de Jean-Christophe Granger
oui déjà
aide
ouais.
à accepter un projet
non mais bien sûr mais c'est-à-dire les producteurs avaient produit Section Zéro moi, donc que j'avais réalisé pour Canal Plus et je savais leur
comment ils travaillaient
ce qu'ils aimaient et donc je savais que ça serait de la qualité et quand ils m'ont dit qu'ils préparaient Les Rivières pour c'est moi qui ai demandé à passer les essais pour
l'immense
ouais j'ai dit ouais j'aimerais bien faire le vieux flic un peu bourru. Voilà.
Ouais, parce que
j'ai l'âge.
Ouais. Non, mais c'est assez.
Non, c'est une démarche
particulière.
Non,
et puis du coup, ils m'ont pris directement. Je sais je crois qu'il y avait Gérard Lanvin aussi qui était sur le coup. Et Gérard, il a refusé. Donc. J'ai dit, tant mieux, parce que je récupère les rôles de Gérard Lanvin, donc ça me va bien.
Ça passera à partir du lundi 26 novembre, lundi prochain, 21h et 22h, deux épisodes par soir, pendant quatre soirées, Les Rivières Pourpres sur France 2. Père Albert, ça va être un succès.
Ah, oh, mon cher Nangui, pour expliquer le succès de ce thriller, comme nous recevons aujourd'hui Olivier Marchal, coucou Olivier, je maintiendrai à sa prestation...
Il ne veut même pas répondre, il a peur.
Oui, c'est moi qui lui fais peur, pour une fois. Je maintiendrai donc à sa prestation, où dans le rôle du capitaine Nemans, il est particulièrement convaincant, tout en rudesse généreuse, en humanité bougonne, en violence contenue, perspicacité dubitative. Bien sûr, j'ai été impressionné, j'en ai encore les poils des mollets qui se dressent, par l'ambiance lugubre de ces enquêtes menées dans des contrées arriérées ou dans l'ombre des forêts profondes champignonnent comme autant d'amanites phalloïdes les serial killers, les détraqués sectaires, les pervers illuminés, le gang des gilets jaunes. Sur un plan plus personnel...
Oui, faut pas tout mélanger peut-être, non?
Voilà, je vais revenir à moi. Oui. Sur un plan plus personnel, j'ai été touché par ce personnage voué au célibat, comme moi, dont la vocation, je dirais même le sacerdoce, consiste à se pencher, comme moi, sur le versant maléfique, sadique, oui. satanique
calme
de l'âme
toi,
humaine.
Calme-toi.
Mais oui, Nagui, d'ailleurs, si le capitaine Nemans devait enquêter sur vos agissements, au lieu de tapoter sur votre téléphone, Nagui, je suis sûr... qu'il ne manquerait pas de mettre à jour votre duplicité. Heureusement, cher Olivier Marchal, que vous n'avez pas entendu juste avant l'émission, les reproches hurlés par Nangui à GNB, notre rédacteur chef, dont le physique rustique, typique de la région de Coulommiers, n'est pas sans évoquer celui de certains figurants frustes des Rivières Pourpres. Alors là, c'est Nangui qui parle. Encore une série. J'en peux plus des séries.
Très bonne imitation.
Mardi, j'avais... Je suis pas Albert Algou, moi, je suis pas imitateur.
Ouais, c'est ça.
Mardi, j'avais déjà dû me farcir la vérité sur l'affaire Harry Québert, les 8 épisodes. Juste avant, je m'étais appuyé les 6 épisodes de Aux animaux la guerre.
Il y en a 10
et les
dans Harry Québert.
En plus, les 6 de 10%. et pour lundi prochain, faut que je me cogne les 8 d'Hippocrate.
Hippocrate, très bien.
Alors,
Hippocrate.
Je peux te dire que les Rivières Pourpres, j'ai fait l'impasse, et t'as intérêt à avoir fait une bonne fiche qui donne le change, parce que le Marshall, faut pas le prendre pour une batringue. Voilà, cher Olivier Marchand,
voilà.
Comment se prépare la bande originale.
Voilà, mon père
si jamais, toi tu fermes ton club. Si jamais, sinon tu vas avoir droit à une admonestation. Si jamais vous envisagez une saison supplémentaire, pensez à moi pour incarner un prêtre exorciste. Je comptais vous prouver mon talent par un exorcisme flash sur mon nouveau site 3615. « Ta mère suce détruite en enfer ».
Ça va pas. Mais, ce sera, mais ça va pas.
Ce sera... Il a été ouvert par Daniel Morin. Mais ce sera pour une autre fois. Bonne émission.
Merci beaucoup.
La bande originale. Sur France Inter.
Dans ce genre de série, il faut trouver le juste milieu entre les images choquantes, parce que on dit dès l'instant où il y a un serial killer, on se retrouve avec soit des têtes coupées, des mains coupées ou des personnes éventrées.
C'est des sacrés tableaux en plus.
Et voilà, et que ce soit quand même visible par le plus grand nombre. C'est pas ça le souci.
Oui, mais c'est pas glauque. Hein. Enfin, c'est anxiogène, mais pas glauque, franchement. Enfin,
des gens décapités, morts et éventrés.
Des trépalaires.
Ouais. Je trouve qu'on
avec une feuille de houe dans la bouche.
Ouais, mais c'est la vérité.
C'est pas si avec ça.
C'est joli.
Bah après, si t'as pas la
c'est joli. C'est non.
Elle est pas là l'image la plus choquante. L'image la plus choquante, c'est quand même Olivier Marchal nu sur le canapé qui se rhabille.
Ça, c'est... Mais j'étais bronzé, je rentrais de vacances, donc ça va. Donc ça passe.
Ah, ça, et puis,
et j'avais perdu.
Il s'est bronzé du haut.
Non, pas tout le monde contre moi.
Non, pardon Olivier.
Non, mais
il y a pas la même base non plus.
Et vous avez failli dire j'avais perdu quelques kilos, donc
j'avais perdu les kilos à l'époque. Je faisais 83. Non, là, je fais 95. J'étais à 101 là, parce que je rentre d'un tournage avec Philippe Guillard, Gérard Lanvin, dans les Landes, et on a fait 2 mois dans les Landes au conflit de canard et au truc. Et donc mais bon, une comédie. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On en parlera plus tard.
Un peu quand même.
Et non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est moi qui avais tenu à
être nu.
Non, parce que j'en ai marre des films où on voit la fille qui est à poil et le mec est toujours en caleçon. Dans la vie,
donc j'ai dit, ça me dérange pas. C'est dans tous les films, c'est le couple qui fait l'amour et lorsque le garçon sort du lit, il a son caleçon.
Il a son caleçon.
C'est-à-dire que tous les garçons remettent le caleçon tout de suite après avoir fait l'amour.
Voir son pyjama.
Il y a que vous, Nagui, qui ressortez en culotte.
Non, mais c'est toujours...
Oui, non, mais c'est vrai que c'est toujours la femme qui est nue et qui se lève du lit, et là, pourquoi pas.
Voilà. Ouais. Là, on l'a changé. Bon, alors, on n'y a pas gagné au change. Il aurait dû voulu l'avoir nu, elle. Je sais ce que vous allez dire, mais bon.
C'était une proposition artistique.
Voici Alexis Laurent-Scal. Il est là. Donald Trump s'est rendu en Californie pour constater les dégâts des incendies et il vous a un peu déçu, Alexis.
Oui, Nagui, parce que bon, la Californie, c'est un peu comme le Portugal. On y fait sécher des morues sur les plages et tous les ans, on se bat contre les incendies. Ça a tellement brûlé ces dernières années en Californie que moi, je me demande si ça vaut le coup de replanter des arbres après les feux. C'est parce que personne n'en parle, mais les arbres, ils ont leur part de responsabilité. Bon, tu vas dans le désert, ça fait des milliers d'années qu'il fait une chaleur à crever, il n'y a pas un arbre, c'est sec comme un coup de trique, mais au moins, ça brûle pas. Donc, la semaine dernière, Donald Trump, il est allé en Californie pour constater les dégâts. Il avait sa grosse casquette USA spéciale catastrophe naturelle, tu vois. Il était là, in that place. La dernière fois qu'il l'avait porté, c'était pour l'ouragan Florence. Et il avait dit, c'est l'un des ouragans les plus humides du point de vue de l'eau. Du coup, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse aussi fort, voire mieux. Mais là, il m'a déçu. Il a juste appelé la ville sinistrée Pleasure au lieu de Paradise. Et il a expliqué que les incendies étaient la cause du manque d'entretien par les responsables des forêts, qui passent pas le râteau au pied des arbres, contrairement aux Finlandais. C'est pas mal déjà. Mais quand on sait ce qu'il est capable de dire,
Tu sais, on a comme un goût de... On reste sur notre faim, quoi. Il aurait pu dire, je sais pas, cet incendie est sans doute l'un des plus brûlants de l'histoire du point de vue des flammes. Ou c'est la faute des migrants mexicains qui font cuire des tortillas dans la forêt, tu vois. Parce qu'on prend Trump pour un imbécile, un peu comme moi. Mais moi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Pas comme moi. Il sait que peu à peu, les gens s'attachent à lui. Comme à l'époque, Berlusconi en Italie. J'ai écrit ça parce que ça rime. Mais dans une moindre mesure, ça marche aussi pour François Hollande.
Regardez, François, vous m'inquiétez là, pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, quand Flamby fait des séances de dédicaces dans les centres Leclerc, les gens se battent pour lui serrer la pince. Ils lui disent « J'ai regardé tous vos bêtises sur YouTube, j'adore ce que vous faites. » En 2022, il va revenir avec le slogan « Avec moi, on rigole bien » et les gens voteront pour lui.
Alors toujours en rapport avec les incendies aux États-Unis, vous avez découvert que Kim Kardashian n'est pas celle que l'on croit.
Tout à fait, Nagui. Car en préparant cette chronique... Non mais j'écris un texte, il ne le suit pas. Il a un
si,
d'accord.
Et qu'est-ce que j'ai inventé ?
Non, c'est vrai.
Ça s'appelle une mise en bouche.
Écoute, il essaie de jouer. Encourage-le.
J'ai dit le même sens avec mes mots.
Oui, mais ça m'a surpris.
C'est approprié le texte.
J'étais pas prêt.
Ce qui paraissait naturel et ce qui évitait de perdre du temps à digresser
dessus.
Comment
on fait maintenant là ?
Ouais. Voilà.
Non, c'est bien en même temps.
C'est pas grave, c'est moi qui touche les droits d'auteur.
C'est vrai.
Du coup, Nagui.
Il apprend vite.
Voilà, donc du coup...
Donc, Kim Kardashian n'était pas celle que l'on croit.
Voilà, parce qu'en préparant cette chronique, j'ai appris que Kim Kardashian et Kanye West avaient embauché des pompiers privés pour protéger leur maison et celle de leurs voisins.
C'est sympa.
Ouais, alors, bon, déjà, vous allez me dire, comment on embauche des pompiers privés ? Alors, j'ai cherché, en fait, c'est très simple, il suffit de leur acheter tout leur calendrier d'un coup. Évidemment, cette histoire a fait polémique, mais moi, je comprends que Kim Kardashian ait voulu sauver sa maison. Déjà parce que sa maison, elle vaut 60 millions de dollars, hein, quand même, et quand, on en parle sur France Inter, mais surtout parce qu'elle a déjà eu son lot de souffrances dans la vie. L'année dernière, à Paris, elle s'est fait voler 9 millions d'euros de bijoux. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle soit la seule à souffrir dans ce monde de merde.
Enfin, elle s'est fait voler 9 millions de bijoux en un bijou.
Peut-être, oui. Ouais. Kim et Kenny, ce sont des gens qui ont toujours su s'entourer, en fait. Lui, des meilleurs musiciens du rap US, elle, des meilleurs chirurgiens américains. En fait, un jour, quelqu'un lui a dit « Occupe-toi de tes fesses », et depuis, elle fait que ça. Mais chacun son truc, je critique pas. Je veux dire, il faut quand même avoir du talent pour faire de l'argent avec, pour attribut principal, un arrière-train plus rembourré qu'un pouf en peau de chèvre ramené de Marrakech. Du talent et une sextape. Parce que c'est comme ça que Kim Kardashian s'est fait connaître. La sextape à Hollywood, c'est un accélérateur de carrière pour gens sans carrière. C'est l'équivalent d'un passage au gouvernement d'Edouard Philippe en France, tu vois. C'est un peu dégradant, mais ça dure pas longtemps, on s'en remet vite, et après on peut commencer à faire fructifier sa petite notoriété. Mais ce qu'on dit pas assez, c'est que Kim Kardashian, elle est d'utilité publique. C'est la femme libérée qui revendique ses formes. Vive les rondeurs, abat les diktats de la mode. Ses selfies et les photos de son fessier, c'est pas pour elle qu'elle les fait, c'est pour toutes les femmes du monde. On a besoin de gens inspirants qui font de leur petite coquetterie esthétique des forces. Regardez Leïla, depuis qu'elle assume son strabisme,
Jean-Paul,
c'est devenu la mode. Les gens louchent dans la rue pour lui ressembler.
Oui.
On va rappeler quand même que Laurent Dutch a cru voir en Leïla Kadour.
Il l'a bien cru, il l'a bien affirmé.
Oui, c'est ça. Le sosie de Jean-Paul Sartre. Il a dit, vous avez le même regard que Jean-Paul Sartre.
Il a la même coquetterie dans l'œil. Oui. Mais il voit pas bien. Il a confessé aussi qu'il avait des problèmes de vue.
Ah oui, c'est toujours à moi, pardon.
C'est pas fini.
J'avais écrit une fin, une moralité, ce que je fais pas souvent. Tout semble rentrer dans l'ordre aujourd'hui. Trump devient sage, Kim Kardashian pense aux autres et Leïla porte des lunettes. Il manquerait plus que le public de l'émission me fasse un triomphe et tout serait normal. Bonne fin d'émission, messieurs.
Bravo, bravo,
bravo,
bravo.
Vous avez dû rajouter un triomphe naturel. Parce que
ouais, c'était spontané.
Et triomphe naturel le dimanche au Scénarium.
À 19h30.
À 19h30, Alexis Le Rossignol.
Merci Leïla.
C'est noté. Olivier Marchal porte cette série des Rivières Pourpres aux côtés de.
Pourpre.
Aux côtés d'Éric Assainte, inspiré de Jean-Christophe Granger. C'est lui qui a écrit. Salaud. C'est lui qui a écrit et dialogué toute la série.
Oui.
Tout. tout. Donc c'est un vrai travail. Il a pas été simplement directeur de collection. Il a pas non, été non, il a showrunner.
Il a écrit les.
Il y en a qui bossent, Nagui.
Oui, oui. Non, mais c'est étonnant de se dire, on reçoit des prix, on fait des romans et on attend des rendez-vous de romans et on se met à l'écriture de scénarii pour la télévision qui peut être considéré comme un genre mineur par rapport à des prix Goncourt.
Bah, c'est sûr. Puis qui même si là, je pense qu'il a, il a dû être bien payé pour le faire. Je pense que ça lui rapporte beaucoup moins que ses livres. Hein.
Donc c'était l'intérêt de l'enquête qui l'intéressait.
Oui, je pense qu'il avait aussi peut-être. Je pense qu'il a, les films qui ont été faits aussi n'ont pas été très convaincants, à part le premier Rivière pourpre avec Jean Reno et Vincent Cassel qui avait marché.
Ouais.
Après tout ce qui a été fait n'a pas été très. Je pense qu'il n'a pas été très en phase avec ce qu'il faisait. Il a peut-être eu envie lui de marquer son empreinte.
Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Est-ce qu'il était présent?
Non, pas du tout.
Pas
non,
de rencontre,
non, il a
rien.
Écrit et puis nous on a voilà, on sont
de
temps en temps on changeait des petites choses qui étaient parfois peut-être un petit peu littéraires dans les dialogues tout, mais
est-ce qu'il y a toujours sur ce genre de série une caution policière présente sur le tournage en disant ça oui ça non, ou est-ce que c'est à vous qu'on demande, est-ce que les policiers auraient agi comme ça?
Non, on avait un régleur là qui était Gilles Demurger, qui était très très bien.
Un régleur s'appelle?
Oui, un régleur, un chorégraphe, un régleur de combat, et après qui bon, moi j'ai l'habitude hein, mais pour la petite Éric Hassinthe, par exemple, il l'a beaucoup formée au maniement des armes et tout ça, pour qu'elle soit crédible. Et puis, de temps en temps, moi, je me permettais de lui dire, c'est mieux si t'es comme ça et tout, même si aujourd'hui, les techniques d'intervention ont changé aussi. Hein.
Et vous n'êtes pas un gros causeur dans cette série? Vous êtes plutôt bougon?
Ouais. Ben ça, oui, ben c'est un mec qui parle pas beaucoup. C'est un taiseux.
Vous aimez ça?
Moi j'aime bien, bah, ça me rappelle un peu mon père quoi, c'était un Lorrain quoi. Donc c'est les gens de l'Est quoi, de la France, c'est des paysans, voilà, je suis petit-fils de paysans, de cheminots. Donc j'ai grandi là-dedans, mon père était ouvrier. Donc il avait un cœur énorme quoi.
Ouais.
Voilà, c'est
Et il faut finalement l'autorisation de l'autre pour se mettre à parler, il faut que ce soit Erika dans la voiture qui dit maintenant.
Ouais, mais quand il parle l'immense, c'est pour quand il parle
les robinets sont ouverts
pour dire les choses comme il faut les dire quoi. Et puis bon, quand il frappe quand il faut frapper.
Les Rivières pourpres, un véritable suspense, parle, parce que c'est vrai que quand on est à la fin de la première, puisque les épisodes sont des histoires bouclées deux par deux, entre guillemets, on ne peut pas s'arrêter au bout du premier épisode en se disant je vais pas regarder le suivant. C'est impossible parce que il y a vraiment cette accroche et on est baladé, on croit comme souvent d'ailleurs, c'est ce qui marche dans ce genre de série, on croit comprendre, on croit découvrir des choses. Et il y a toujours des rebondissements.
Je crois que c'est une série. Enfin, voilà, c'est pas. Nous, on a toujours le doute hein, quand on fait les choses. Hein. Après, je pense que c'est une série qui se démarque un petit peu de par sa qualité visuelle déjà, et aussi les milieux dont elle traite. Quoi. C'est vrai que les sectes, ça fait peur à tout le monde. On en parle, mais on ne sait pas trop ce qui se passe derrière les murs. Ouais, c'est une série qui aurait pu s'appeler Derrière les murs parce qu'à chaque fois, on va dans des milieux qu'on connaît pas et qui sont assez étranges. Oui, c'est un petit peu. Voilà,
oui, ça renouvelle un peu le genre,
parce que c'est
la découverte d'un milieu à travers le genre policier, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de séries policières, là, l'intérêt c'est d'aller, on parlait de la Pirche tout à l'heure, d'évoquer les chiens aussi, une certaine race de chiens qui était utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin on apprend des choses aussi.
Ouais,
tout est vrai, ce qui est dit.
Grand J, il s'appuie toujours sur des choses vraies.
D'accord.
Après, il part dans ses délires.
Bien sûr.
Ça c'est son rôle d'écrivain après.
La base existe.
Oui.
En musique, Olivier Marchal, vous écoutiez dans les années 90. Tellement sexy, ça.
Ah oui.
Ça, oui. J'ai frotté là-dessus. Hein.
J'ai frotté.
Oh, mon Olivier.
D'ailleurs, rien que d'en parler, là.
Vous voulez pas signer ma pétition pour que les slows reviennent en boîte de nuit un peu aussi?
Si, bah aussi, je veux bien, ça. Ça serait bien.
Y a plus?
Ça serait un vrai combat, ça.
Y a plus de musique.
Mais c'est comme ça qu'on sortait avec les filles, hein, c'est les slows.
Je sais bien. Ouais. Je sais bien.
Maintenant qu'il y a plus les slows.
Il y a les menottes.
Il nous reste l'alcool, quoi.
Les menottes.
Se passait quoi, Léa, en 91, 92?
Eh bien, en 91, 92, Olivier, vous commencez à écrire des scénarios pour TF1. Mmh. C'était Commissaire Moulin à l'époque. Comment est-ce que vous arrivez à à trouver le réseau ou en tout cas le lien pour écrire.
Ah, ça a été très long. C'est quand, dès que je suis rentré dans la police, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et puis, on voyait les super flics à la télévision, au cinéma. Et moi, j'avais écrit un scénario qui s'appelait Des flics sans importance. Mm-hmm. Voilà. Qui était le quotidien de mes copains avec qui je travaillais, qui avaient des doubles vies. Il y en a un qui était éleveur, qui était paysan, l'autre, moi, qui prenait des cours de théâtre et tout ça. Et j'ai démarché les productions.
C'était un peu plus noir aussi, parfois.
Et puis, j'ai traité des affaires. Je crois que j'avais traité dans une affaire qu'on avait faite qui m'avait beaucoup marqué. On avait fait une prise d'otage dans le 13e arrondissement et on était intervenu, on avait serré un des mecs, les deux autres s'étaient arrachés avec le code du coffre du patron de cette société qui avait été braqué. Et ils avaient embarqué son chien, son bobtail. Et on arrive là-dedans avec, je me rappelle, c'était une personne âgée qui s'était fait matraquer, accroché au radiateur. Ouais, c'était une grosse équipe. Et le mec était en larmes, c'était un PDG, très très BCBG et tout, et le mec nous dit j'ai perdu ma femme et mon fils dans un accident de bateau cet été, il me reste que mon chien.
Ouais.
Et ils l'ont pris et ils vont le tuer. Et donc on a fait toute la nuit, on a retrouvé le chien, c'était un bobtail, mais c'est une histoire qui paraît con, mais on lui a ramené son chien et pour lui c'était voilà.
Mais là, c'est un comportement presque, très humain, ouais. En disant.
C'est pour ça que moi, les flics, c'est comme ça que je les vois. C'est comme ça que je les dépeins, quoi.
Parce que ça existe vraiment. La police. Vous voulez dire, ça existe vraiment, ça?
Bien sûr. Mais 90%. Est-ce que vous avez. On nous parle tout le temps des bavures et tout, des bavures policières.
Non, je parle pas de bavures. Je dis qu'un policier peut dire on a d'autres choses plus urgentes à régler que.
Oui, mais là, c'est une prise d'otage. Il y avait quand même un kidnapping. Ils avaient séquestré les gens pendant 12 heures. Ils étaient partis avec le chien parce qu'ils avaient que ça.
Non, je trouve ça très bien. Mais J'ai juste peur que certains policiers disent on a d'autres choses à faire que d'aller s'occuper d'un chien.
Voilà. On a d'autres chats à fouetter.
C'est-à-dire on a quand même serré toute l'équipe aussi. Enfin,
ouais. Voilà.
Vous voyez, non, mais okay, on n'a pas retrouvé que le chien. On va chercher dans Paris toutes les gyros.
On vous laisse
et tout
le code et le coffre, rendez-nous le chien.
Ils étaient partis à son domicile à Maison Lafitte avec le chien faire son coffre pendant que le complice restait pour surveiller les
otages. Donc vous
décriviez
le côté humain, entre guillemets.
Mec nous avait bouleversé quoi. C'est...
Pour en revenir à Sade, est-ce que vous écoutez, est-ce que la musique est présente dans le métier de la police? On imagine que vous n'avez pas le droit de porter des écouteurs ou d'écouter votre musique. On imagine que dans la voiture c'est plutôt la radio du central que de la musique. Donc quand est-ce qu'elle est là la musique?
Déjà, je crois qu'on n'avait pas les radios dans les bagnoles. À l'époque, les voitures étaient pourries déjà, donc on planquait dans des trucs. On avait quand même la R14 Poire, moi, à l'époque, et la Simca Tableau l'Horizon Rose Bonbon, quoi. Donc en filoche, c'est pratique parce que ils avaient sorti toute une série de Simca Tableau là, qui était horrible, Rose Bonbon, et personne en voulait, donc ils avaient refourgué aux flics, quoi.
Il paraît que même le bobtail voulait pas rentrer dans la Simca.
Non, mais nous, on en avait une en tout cas. On a démarré là-dessus, puis on planquait dans la tuyau. On n'écoutait pas. Nous on parlait beaucoup entre nous quoi.
Et vous avez grandi en écoutant beaucoup de musique?
Ouais, moi beaucoup, mais beaucoup de musique de film en fait. Là parce que j'ai cherché des titres qui m'ont marqué, parce que là-dessus, en revanche, on parlait de solo, mais j'avais rencontré une fille là-dessus et sur cette musique, et on a eu une jolie histoire.
L'hyper romantique, voilà. En fait, Olivier Marchal.
Merci.
Ouais.
Peut-être qu'il va pleurer en écoutant Eminem.
Je suis pas là.
On est en 2002. Eminem, le rap fait partie aussi de votre bande originale?
Certaines formes de rap, oui. Ouais. Oui. J'aime bien Eminem, j'adore IAM, j'adore Orelsan, Grinch, voilà, des mecs comme ça, oui. Après, j'aime pas tout le rap. Le rap,
j'imagine que Grinch, IAM, ce sont les textes qui vous plaisent, en plus des musiques.
J'aime la mentalité du mec de Akhenaton. J'aime bien comment il parle. J'aime le mec qui vit dans les quartiers à Marseille.
Ouais, il a des valeurs.
Il a des valeurs d'éducation pour ses enfants, tout. Et puis, il transmet des messages positifs. Voilà, c'est un type bien. C'est mec bien, IAM.
Et 10 ans après avoir démissionné.
Bon musicien.
Ouais, 10 ans après avoir démissionné de la police, on est en 2002. Et vous réalisez votre premier film. Vous aviez réalisé un court-métrage déjà auparavant. C'est Gangster.
Ouais.
Et vous êtes très, très dur sur ce film dans les interviews.
Ah bon?
Ouais, vous dites qu'en gros, il fallait pas faire ce film.
Sur mon premier film, tout ce qu'il fallait pas avoir, quoi. J'ai eu un acteur qui est devenu fou, j'ai eu une bagarre générale, j'ai eu
les. C'était Richard Gonina?
Non, Richard, il a été tout. Non, c'est, il y a eu une bagarre entre. entre un acteur et puis et non, c'est allé loin, il y a eu une baston non pas Richard non.
Ah bon.
Non non. Mais j'ai eu beaucoup de gens contre moi, personne croyait en moi, tout le monde disait de toute façon il va se planter, il est nul, il a pas fait pour ce métier. Donc c'était assez compliqué.
Si c'était à refaire
c'est ce film qui m'a permis de rentrer chez Gaumont et de faire 36 Quai des Orfèvres derrière. Ah oui. Grâce à Patrice Ledoux qui travaillait à l'époque, et puis aussi Denis Dumas, la patronne, et Franck Choreau. Voilà.
Non, mais ce que je veux dire, voilà. Si c'était à refaire.
Mais ça, je referais la même chose, en fait. Ouais. Je dis, c'est vrai que j'ai très mal vécu d'être. C'est des humiliations. Le faire un premier film, c'est des humiliations constantes. C'est que personne ne croit en vous. Donc tout le monde est contre vos choix de casting, de tout ce que vous voulez. On vous dit non pour tout, quoi. Donc il faut se battre tout le temps contre ça. Et j'ai mis 7 ans quand même à le faire, le film. Donc c'est long.
Ouais.
Ouais, c'est long. Mais ça sera à refaire, évidemment. Ça m'a amené après derrière. Tout ce qu'on sait, quoi. Enfin, ou ce qu'on ne sait pas, mais bon.
Oh non, non, si. On va en parler d'ailleurs.
On sait trop.
En 2006.
Si t'es pas le patron.
Je veux que tous les trains du monde restent dans leur gare. Je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières. On instaure le couvre-feu.
Johnny Hallyday, vous gardez quelle image de Johnny?
Bah, moi, quand j'ai fait Gangster, je le connaissais pas, hein, je le connaissais évidemment, le chanteur, et j'ai eu un message sur mon portable, et ah, c'est Johnny, j'ai vu ton film, il faut vraiment qu'on se rencontre. J'adore les policiers, et j'aimerais beaucoup j'ai déjeuné avec lui, il voulait tourner avec moi, et on s'est revus 2-3 fois.
Ouais, vous en avez beaucoup parlé.
Je garde l'image. Moi, c'est-à-dire, on en avait déjà parlé, Nagui, ouais. Je crois, quand j'étais portier au Hard Rock Café. J'ai fait l'ouverture de Hard Rock Café où vous veniez. Et avec d'autres. Et vous faisiez partie des gens qui ont été très sympas avec nous. Dans les vedettes qui venaient. Et Johnny faisait partie de ces mecs-là. J'ai rencontré Barry White. Après, je vais pas faire la liste de cons qui nous jetaient les clés à la.
Ouais, c'est intéressant aussi.
Non, oui, mais j'ai assez d'ennemis comme ça. J'ai pas besoin de. Ils se reconnaîtront. Mais vous, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais vous aviez été hyper sympa avec nous. Comme des mecs comme Dominique Farrugia, toute l'équipe des nuls, enfin tout ça. Et Johnny faisait partie de ces gens qui faisaient attention à tout le monde. Et je me rappelle, il avait le carré VIP en haut et on était obligé de faire des rondes de sécurité. Il attend que je dise une connerie sur lui, mais non, ça ne viendra pas. Je vous ai vu sur les canapés rouler avec des filles de joie, Nagui. Je vous ai vu rouler sur les moquettes du Hard Rock Café. Je ne connais pas, on va en parler.
Je vais vous dire la vérité. Ça me renvoie à une période aussi de ma vie et je revois les escaliers, je revois l'entrée, ainsi de suite.
Et nous, on montait, on avait le blouson Hard Rock Café. On montait. Je me rappelle de Johnny, on faisait des grandes tables en U comme ça. Il était entouré de tous les petits marquis, cette cour de cons que les grosses vedettes peuvent avoir autour d'eux, quoi, des mannequins, des espèces de trucs. Et le mec était tout seul avec sa gitane et il était les yeux dans le vide et il fumait ses gitanes et personne ne lui parlait. Ouais. Et moi, l'image que j'ai de Johnny, c'est ça. Et dans la vie, c'était un type d'une timidité et adorable, et puis pas si con qu'on a voulu le faire croire, et qui était très, très cinéphile.
Et il s'ennuyait quand il ne faisait pas son métier.
Ouais, exactement.
Et sa passion était en effet le cinéma et les films de policiers.
Exactement.
Ouais.
Et voilà, moi
j'ai. Vous l'avez vu sur scène aussi?
Oui, il m'avait invité au Stade de France,
Wow.
Et c'est un super souvenir. Puis moi je l'avais vu tout petit, à 10 ans, j'étais allé voir Sous Chapiteau à la Teste, passé en Arcachon, et. Voilà, j'étais allé voir Johnny, donc c'était mon premier concert. J'étais allé avec ma nounou, et donc voilà.
Et cette année 2006, c'est le théâtre.
C'est une nomination au Molière.
Ouais.
Pour révélation, la catégorie révélation théâtrale. Ouais. C'était un désir fort d'être sur scène. La pièce, c'était sur un air de tango.
Oui, c'était avec Étienne Biry, qui était un. Monsieur qui avait La Vache et le Prisonnier, c'était un peu son histoire. Il avait coécrit le scénario et tout. Il avait 84 ans, il jouait mon père et il y a eu un transfert. C'était un immense acteur, Étienne Biry. Alors les théâtres le connaissent, le grand public peut-être un peu moins, mais si on voit ça, son visage, c'est un type exceptionnel. Enfin, voilà, moi pour moi c'est une aventure. Jouer avec un monsieur comme ça. Il est mort à 93 ans, il faisait encore des mises en scène.
Ouais. Ça vous apportait quoi le théâtre pour ensuite jouer à nouveau au cinéma ou à la
télé ? Moi, j'essaie d'en faire après chaque film parce que ça permet de revenir à la simplicité. Voilà, un film, c'est le Titanic, hein, franchement. Enfin,
non, mais un film,
Paris,
c'est...
Ce qui est pas
un film, c'est aussi 40 ou 50 prises, alors que le théâtre,
et
c'est...
Puis c'est 2 ans de travail, c'est 18 heures par jour. Le théâtre, le rideau s'ouvre, on y va, c'est l'adrénaline, quoi. C'est, on a 1h30 et
il faut
s'enfiler, quoi. Et ça, c'est vachement agréable.
En 2011, vous avez retrouvé vos potes du fils à Jo.
Adieu,
et vous
adieu
écoutez.
Les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles, adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés, qu'empilerait les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer.
Orelsan, vous avez dit tout à l'heure ce que vous en pensiez, pourquoi ce titre Suicide social?
Parce que moi ça me parle, il évoque que ça me parle tellement la société d'aujourd'hui, c'est tellement ça. C'est un constat terrifiant de ce qu'est devenu notre société, le monde, les rapports entre les gens. Enfin, voilà. Et c'est la chanson de Carbone, voilà, dans mon dernier film. Elle accompagne, elle ouvre le film, elle termine le film. J'adore cette chanson.
Et dans le fils à Jo, on est plutôt dans un rapport de compagnon, de frère, quelque chose de...
C'est plutôt les jambons de Bayonne.
Ouais, c'est ça. Avec Gérard Lanvin, Vincent Moscato. Ouais. Et finalement,
Philippe Guillard, qui
réalise. Et finalement, c'est l'occasion pour vous deux, avec Gérard Lanvin, de vous rabibocher.
Ouais, parce qu'on a vu une petite brouille. Vous savez, les brouilles de cinéma qui peuvent durer pendant 15 ans, 20 ans sur « on a dit que, il m'a dit que ».
Sans qu'on sache pourquoi.
Voilà, et on s'est retrouvés forcés, on a été obligés, puisque Philippe a appelé Gérard, il dit « bon Gérard, le film se fait ». Alors il dit « ouais, super ». Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est avec Marshall. Et t'es bon. Bah, je vais le rencontrer ce con. Et puis voilà, puis on s'est plus quitté, quoi. Et c'est devenu un super pote. Voilà, parce qu'on est deux cons, en fait. Tous les deux.
En tout cas, c'est ce qui se dit dans le métier. Si vous voulez
non, mais il a son franc-parler. Moi, j'ai ma façon. On est parfois assez maladroit. On est dans les excès aussi. Enfin, bon.
Et dans la sensibilité aussi.
On est des fausses grandes gueules, quoi. Ouais. Enfin, non, mais franchement.
Non, mais une vraie sensibilité.
Voilà. Et puis après,
et là, vous venez de retourner ensemble.
Ouais, on vient de faire deux grands-pères. Ouais. Ça s'appelle Papy Sitter. Ouais. Voilà, dehors, je faisais un grand-père biker, moi, qui fume des joints et qui tenait des bordels à ramener en Amérique du Sud. Et lui, il fait un ancien gendarme et on est obligé de garder notre petite fille qui va passer le bac ensemble. Donc la cohabitation va être houleuse. Voilà.
C'est très drôle. De l'écriture dans quelques instants. Bruno Corti, merci de venir nous rejoindre à ce micro. Vous êtes journaliste littéraire au Figaro. On parle de Jean-Christophe Granger et de sa série des Rivières Pourpres. Est-ce qu'il a un style, d'ailleurs, Jean-Christophe Granger? Si oui, comment le définir?
Granger, c'est du thriller à l'américaine. Il a pas pompé, mais il s'est inspiré vraiment des Américains. Il a débarqué après avoir été grand reporter pendant 12 ans. Il a ramené un tas de matos, des notes sur tout un tas de trucs.
Ça veut dire quoi à l'américaine? Ça veut dire basé sur les faits
réels? Ça veut dire qu'il a lu des mecs comme James Ellroy ou comme Thomas Harris, Le silence des agneaux. Ouais. C'est évident, il sait bien faire, Granger. C'est un mec futé, c'est pas un type toujours sympa. Non, il roule pour sa gueule, c'est clair.
Je vous adore, vous, comme intervenant.
Non.
Formidable.
Donc, il a fait... Non, à l'américaine, c'est efficace. C'est un scénariste, Granger aussi, c'est un mec d'image. C'est un type qui a lu Ellroy et qui a vu qu'il y avait des scènes choc et que c'est là que ça se passait. Mmh. Il sait faire, il est vraiment bon. Donc, voilà, après... Il n'est pas très aimé, ça c'est sûr, parce que d'abord il a eu du succès, pas au premier qui était une plantade, Le vol des cigognes, c'est 8000 exemplaires, c'est que dalle. Après, les rivières, là, il a cartonné, et à partir de là...
On l'a pas aimé.
Non, on n'aime pas en France le mec qui cartonne, c'est pas bon, il y a un loup.
Il a commencé par la pub, c'est ça?
Il a été pubard, ouais. Il a fait des études à la Sorbonne, vachement sérieux, Flaubert et compagnie. Il est passé à la pub, déjà, c'était autre chose.
Vous êtes sûr que vous êtes journaliste au Figaro, quoi?
J'adore le contraste. En chef du Figaro littéraire.
J'adore le contraste, tout d'un coup, avec cette langue, là. J'adore.
Elle voulait que je vienne avec une perruque poudrée.
C'est ça. Je m'attendais plutôt à ça, Bruno. C'est une belle découverte.
Mais moi, attention, ouais, vous, tombez ouais. dans le, vous tombez dans le délit de sale gueule, quoi. Non, le côté, bon, un mec du Figaro, il doit venir avec ses laquais.
Bon, et tu veux faire un sondage, tu verras que c'est quand même.
Mais ouais, mais on est victime d'une.
Oui.
D'une image.
D'une image mais terrible.
Oui. Enfin, non, vous êtes victime.
Oui, parlons de vous un petit peu. Alors, ça va en ce moment?
Revenons, pardon, oui, à sa formation très littéraire d'un côté et plus barre de l'autre, c'est ça?
Ouais, très littéraire, plus barre. Mais surtout, je crois que c'est le grand reportage qui l'a formé.
Journalisme,
ouais. Ouais, mais là, en indépendant, c'est-à-dire. Pas dans une agence, pas un... non, avec un type, un photographe qui s'appelait Perrin. 12 ans au bout du monde, mais tout hein, à droite, à gauche, ramenant des tonnes de notes.
Sur le terrain, donc.
Sur le terrain, ouais.
Il travaillait pour une rédaction particulière. Non, il était freelance. Il était
freelance. Il vendait un match. Il vendait et donc il a fait des grands reportages. Et c'est ça, le Vol des Cigognes, c'était ça le premier livre. C'était un reportage. Bon, donc moi je pense que c'est un mec qui bosse beaucoup. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est plutôt sympa comme ça. Après, il est fermé, il dit pas grand-chose.
Mais son talent, c'est quoi? C'est la structure narrative ou c'est ouais. la plume, les mots choisis, le fait de se baser.
Non, les mots, on s'en tape. Là. Franchement, c'est du thriller.
Ouais.
Alors, c'est pas la Pléiade. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, ça marche bien. Non, mais il sait écrire quand même. Non, mais parce que dans ce domaine-là, vous allez à la FNAC, vous regardez le rayon thriller, il y en a une palanquée ouais. et il y en a 9 sur 10 qui sont des merdes, quoi,
des
faut
purges,
le dire.
Ouais. C'est,
voilà, des purges.
Mais vraiment, on peut faire du thriller avec un style. Moi, Benjamin Whitmer qui a écrit Pike.
Oui, bien sûr.
C'est entre Elroy et Shakespeare. Elroy est un immense écrivain. Hein. On est d'accord.
Ah bah, on voilà. est d'accord. Non, ouais, mais... Pour connaître l'engin, je peux vous confirmer.
Ouais. Ouais.
Il est un
Connelly
peu distroy,
aussi,
mais
Connelly, Connelly
ouais, écrit, il est moins fun.
Oui, il est moins fun.
Je confirme.
Est-ce que tous les livres à succès, justement, tous les thrillers, sont adaptables? Et si oui, font-ils de bons films systématiquement?
Celui qui me fait le plancer, le plus à Granger, c'est un type qui s'appelle Bernard Minier.
Oui.
À pas confondre avec Roger Limier.
Non, mais
Bernard Minier. Bernard Minet non plus.
Qui a écrit Glacier.
Il y a une série récemment qui est passée sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, adaptée de Minier. Minier cartonne. Hein,
c'est sur M6.
Glacier, voilà.
Il écrit très bien.
Et c'était pas mal du tout. C'est un peu le même genre de profil.
C'est super auteur.
Chatham pourrait faire une série aussi.
Alors, Chatham, c'était quand Granger a eu beaucoup de succès. On a dit, les mecs ont commencé à pomper. Enfin, alors évidemment, quand je dis ça, Albert Algou me regarde genre pompé. Non, pompé dans le bon sens, dans le bon sens du terme.
Mais tu me prêtes des idées que je n'ai point.
Mais non, il est en roue libre.
Il t'a prêté un prénom aussi que tu n'as pas.
Non. Les gars de Chatham ont fait du Granger pendant des années. Ils cherchaient leur voix, donc ils ont pompé, ils ont fait du Granger. Sauf que l'original est meilleur que la copie. Et puis maintenant, Chatham, il fait du fantastique et il est bon.
On peut pas nier le succès, en tout cas, de Chatham.
Mais non, mais parce qu'il a trouvé sa voix.
D'accord.
Jusqu'à présent, il l'avait pas. Il y en a plein des petits gars qui ont voulu faire du Granger.
Non, mais on parlait tout à l'heure de Joël Dicker aussi, avec la série faite par Jean-Jacques Hano. Dicker, Chatham, Granger, on se dit que ces auteurs-là sont rapidement sollicités par le monde du cinéma ou de la télévision en disant « Vous savez écrire, vous avez la structure narrative en tout cas, et venez travailler pour nous. »
Mais parce que c'est super visuel. Leur univers est très très visuel. Donc c'est faco, je veux dire. En plus, on les sollicite. Dans le cas de Granger, il a écrit des scénars. Ça n'a pas donné toujours des bons films. Hein. Ce que disait Olivier, c'est vrai, la plupart sont des films assez moyens. Alors que les bouquins sont quand même assez formidables. Ouais. Quand il écrit Miserere, tout à coup, dans le monde musique, religieux, là, à partir de la musique d'Allegri, ce qu'on voit dans un des épisodes de la série là, c'est formidable.
Est-ce que ce sont des succès mondiaux? Dicker est suisse, mais Chatham, Granger sont des auteurs français.
Je les connais pas tous, mais Granger, il est traduit dans 30 pays. Je veux dire,
donc c'est un carton.
Oui, parce qu'en plus parfois il est exotique. Il a écrit un truc qui s'appelle Kaiken, qui se passe au Japon. Il adore les japonaises et les arts martiaux. Et donc quand il aime un sujet, non, mais je pense qu'il est obsessionnel, ce mec. Donc quand il aime un sujet, il s'enferme chez lui pendant 6 mois. Il bouge pas, il regarde pas les télés, il voit personne. Un peu space, quoi. Il faut voir les photos, et là, les sourcils, moi, c'est pareil, mais lui, ils sont taillés comme un diable, c'est un truc marrant. Il n'a pas vu les photos?
Si. J'ai vu l'interview avec les cheveux comme ça en arrière, et les sourcils en pointe,
Mais il bosse, quoi. Il est quand même, je trouve que c'est un bon bosseur.
Et s'il s'intéresse à l'image, il s'intéresse forcément à la sienne aussi.
Peut-être.
Est-ce qu'il est. Il fait partie, on ne parle pas d'argent. Tout à l'heure, vous disiez.
Oh non, c'est vulgaire.
Vous disiez, voilà. Le succès, on n'aime pas. Et l'argent, c'est vulgaire. Il paraît qu'il est mensualisé, qu'il est salarié de la boîte d'édition.
Bah ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup, de moins en moins, parce que les livres, ça ne marche plus beaucoup. Mais bien sûr, un type comme Jordan Meusson était mensualisé chez Gallimard, je pense, puisqu'il gagne tellement de thunes, c'est plus facile. De lycée
salaire.
Voilà.
Par
donc
mois.
Granger, on dit que, c'est pas moi, c'est l'Express l'a dit il y a quelques années, qui touchait 30 000 euros par mois, et qu'après, il y avait l'histoire des impôts, blablabla.
Bon. Et qui vend le plus en France?
Qui vend le plus dans le thriller ou hors thriller?
Non, thriller.
Bah, Granger, je pense. Mini est pas mal aussi, hein. Il monte, et puis il y a Franck Tilliez aussi, ouais. Un petit gars sympa. Mmh. Bon.
Et qui sont tous croqués par le monde du cinéma et de la fiction
Plus télé. Ou moins, je trouve, ouais. Que cette, bah, on disait Minier, là ça marche pas mal, ce qui fait, je pense que lui il a de l'avenir dans l'adaptation. Les autres, je suis pas toujours convaincu que pas facile. Hein.
Et en valeur sûre, qui associe le style et l'intrigue qui vaille le coup, même si c'est pas un français.
Ah non, mais là, les Américains sont toujours les...
Un Mankell ou des gens comme ça.
Mais un Mankell, vous avez vu la série Valander, ouais, avec, ouais. Kenneth Branagh, bah, c'est génial, quoi. C'est, ouais, il y a John Esbo aussi, le Norvégien, ouais. Pareil, mmh. Hyper violent, un truc, une, ouais. Noirceur.
Bruno Corti, j'ai senti que vous allez revenir, si vous en avez le temps et l'envie, journaliste littéraire au Figaro.
Tous les jours, même.
Merci.
Vous allez voir sur le service public, on parle pas du pognon, là.
Merci,
on va parler gros chiffres, on va parler gros chiffres.
Merci, Bruno Corti. Tanguy Pastureau. Bonjour, Tanguy. Vous allez nous parler ce midi de gros.
Oui, c'est la phobie des plus gros que soi, et avec les réseaux sociaux, toute personne enveloppée qui s'affiche, c'est la foire aux insultes. Une fiction sur le sujet est même en tournage pour France 2. Ça veut dire que c'est un fait de société. Bah, quand les gens se sont mis à avoir des pouvoirs magiques, on a fait Joséphine Ange Gardien.
Ou Harry Potter, mais ça dépend. On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale avec Lila Kadoboudébi. Daniel Morin, Albert Algou, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Frédéric Sigrist, et notre invité Olivier Marchal. Bravo. Olivier, on parle de ces Rivières pourpres qui passeront sur France 2 à partir, c'est un événement, hein, à partir de lundi. Deux épisodes pendant quatre soirs, avec chaque fois des intrigues hebdomadaires, mais traitées en deux épisodes, avec une espèce de crescendo, toujours des images choc. Ouais. Cette structure très à l'américaine, c'est-à-dire on commence, on est dans le vif du sujet, on voit tout de suite les horreurs, puis le générique vient donner une petite respiration rapide et débarque le bougon, le policier qui a pas envie, l'inspecteur, le... non c'est Niemans, comment il est, quel est son titre,
commissaire.
Commissaire, voilà. Commissaire Niemans qui vient. Ce que j'aime bien, c'est il s'appelle Niemans, il y a à côté ce côté immense aussi, quand on l'entend l'appeler, on a l'impression que c'est l'immense.
Oui, bah, qui, ça, c'était la blague de l'équipe technique tous les matins, voici l'immense, j'avais droit tous les jours. Hein, donc.
Avec Erika Sainte qui joue extrêmement bien, parce qu'elle est, crédible dans l'action, dans ce côté...
Ouais, c'est une super partenaire.
Flic, inspectrice, et puis sens de l'humour, charme, enfin, ouais. Elle joue de tous les registres.
Elle est belge, quoi. Non, mais
ça veut dire quoi, elle est belge, quoi.
Mais c'est qu'elle est humble, elle est bosseuse, elle est jolie, elle est sympa, elle se marre, elle se prend pas pour une actrice et tout, ouais. Et donc ça,
elle
c'est bien.
Non, mais
c'est agréable quand on en voit d'autres.
Ça donnerait envie de la faire tourner dans un de vos films, quoi. C'est ça l'idée.
Ouais, vraiment. C'est parce que là, elle va jouer en plus au théâtre à Bruxelles, je vais aller la voir, je pense. Non, parce que c'est une chouette nana.
À suivre, donc.
Oui, c'est une chouette nana.
C'est Rivières pourpres, on va continuer d'en reparler, ça sera après. Tanguy Pastureau. Tanguy, on passe sa vie à juger les autres.
Oui, Nagui, six mois avant d'arriver à France Inter, il y a un an et demi, je m'étais dit, mon Dieu, des gens de gauche, ils vont être pro-migrants, pro-sans-papiers, pro-environnement, contre la pêche intensive, donc pro-ton. C'est pour ça que je portais des t-shirts I love Mussolini. Par réaction, vous croyez que ça m'a fait plaisir les trois premiers mois d'encenser Laurent Wauquiez, alors que le seul truc qu'il sait faire, c'est mannequin poivre et sel pour les parcs à Guy Cotten. J'étais dans le jugement, puis j'ai réalisé qu'il y avait aussi des gens de droite sur l'antenne, comme Gérard Larcher, quand il est invité sur la matinale, et ben il est à droite, sauf quand il y a un buffet campagnard où il est aussi à gauche et au milieu. Le regard qu'on porte sur l'autre, il est souvent négatif parce qu'on lui reproche de pas être ce qu'on est nous. Quand Macron dit à un jeune chômeur, bouge-toi un peu le huc, mon couillon, parce que sinon je t'inscris d'office au Jihad et demain t'as un vol pour Alep. Il le fait parce que lui-même est suractif. Hollande à un chômeur dirait, je te comprends, man. Moi non plus, j'ai rien glandé. Et là, je suis à la cool, la tulle, à fumer des ouinges, tandis que je me caresse en pensant à Julie. Hein, Hollande, c'est le premier rasta blanc sans dreadlocks qu'on ait eu comme président. On juge en fonction de ce qu'on est. Par exemple, Olivier Marchal, ancien flic qui en a croisé des durs à cuire. Si quelqu'un dans le public nous menace avec un objet contendant, comme un livre de Karl Marx ou un petit pot de capsule de DHEA, il se dira mais c'est quoi ce loufia, je m'en vais l'attacher au radiateur et lui ravager la face avec le bottin de 79 de la Seine-et-Marne. J'en suis resté à une vision surannée du gangster. Je n'ai encore intégré ni le parcours de Cahuzac ni celui de Carlos Ghosn. Mais prenez Catherine Sellac, de Théo Café. café qui arrête dans 10 jours. Pour elle, un retard d'une heure dans la livraison des capsules Nespresso, ça la détruit, parce qu'elle n'est pas faite comme Marshall. Donc quand Nicolas Bedos lui dit « Ouais, j'ai trimé dans la vie, ça n'a pas été facile tous les jours », elle acquiesce en pleurant. Donc on juge selon notre vécu, notre sensibilité, qui font que nous sommes différents. Le seul point commun qu'on a tous ici est qu'on se fait blanchir les dents l'été, parce qu'en septembre, on passe à la télé, à part Daniel Morin, qui ne fait pas de télé. Donc il peut aussi bien se l'éteindre en bleu, blanc, rouge. Et ensuite, quand il croise Marine Le Pen, elle lui dit « Rejoins-nous, mon loup, le seul comique qu'on a réussi à retourner, c'est Jean Roucasse. » Nous sommes différents, mais on vaut tous pareil. On a droit au respect, par exemple. Ce truc qu'on offre à Teddy Riner, dès lors qu'il fronce le sourcil droit. Qui sommes-nous pour juger les gays, tiens, leur taper dessus. Tous les jours, c'est agression sur agression. Mais être gay, c'est pas si loin que ça qu'être hétéro, à part qu'on en a rien à foutre de la publicité au bat sur 25 ans si on est un mec. Un corps, c'est un corps. Les seins des femmes, c'est pas non plus la plus grande invention de tous les temps. En gros, il y a 4 seins modèles. Si c'était si passionnant que ça, on n'aurait pas lancé Netflix pour occuper nos soirées.
Bon, et donc, autre forme de discrimination, la grossophobie.
Oui, mercredi s'affiche une alerte sur mon téléphone de jean-marc-morandini.com. Wow. Ne me jugez pas, je me suis abonné juste pour être averti si un jour, Nagui, vous tombez pour trafic de drogue, vous bossez 18 heures par jour sans avoir le 06 de Christopher Froome, on me la fait pas à moi. Et l'alerte dit, je cite, « Ma gloire au bord des larmes, entre guillemets, arrêtez de vous moquer de nous les gros, j'en ai marre. » Alors Ma gloire, c'est un animateur télé, hein, dont la dernière actu est qu'en 2017, il a fait Fort Boyard avec Nelson Montfort, qui avait parlé au Migal, hein, pensant qu'il maîtrisait leur langue. Sinon, il a animé l'émission Pelle ou Râteau, une émission de dating. Hein, c'est comme Silence ça pousse, mais avec moins de pelouse et plus de mononucléose. Donc au vu de son CV, on a plus envie de dire qu'il est con plutôt qu'il est gros. Hein. Mais là, il dit à Morandini qui lui aussi se fait blanchir les dents. Mais pas l'été, hein, le matin. Tous les matins. Hein. Il lui dit qu'il subit en permanence les moqueries des gens à cause de son poids. Or, le poids de quelqu'un, c'est un fait. C'est comme d'être petit ou grand, on s'en tape. C'est pas mieux ou moins bien que d'être mince. C'est pas parce que Lagerfeld fait défiler des cadavres ambulants sapés en animaux morts qu'on doit tous ressembler à ça. Il n'y a pas de normes. Héloïse Martin, une petite actrice que je connais pas parce que je suis vieux, et qui est sur Danse avec les Stars, et bah pareil, elle explique que sur les réseaux sociaux, chaque jour, des gens l'insultent à cause de son poids. À un moment, un type la traite dans un tweet de boudin. Elle lui répond, chacun son opinion. Bah non, cocotte, tu fais de l'audience, TF1 va pas te virer, si tu réponds aux gonzes, va te faire foutre, pauvre con. Juste parce qu'on a des formes, on doit se taper toutes les névroses des anonymes tarés, mais non. Traiter une jeune femme de boudin, c'est pas une opinion, c'est l'assurance de rester puceau hyper longtemps. Parce que le préjugé numéro un vis-à-vis des gros, c'est qu'ils n'auraient pas le contrôle de leur corps. Ils mangeraient trop. Alors que l'obésité est génétique. C'est pas en grignotant de l'endivage 24 comme Aymeric Caron qu'on change quoi que ce soit. Au pire, on meurt de faim et dans la terre, on se décompose plus vite parce qu'on est bio. Alors que les gens qui mangent à McDo, les verts n'en veulent pas. Mais la grossophobie, c'est l'ultime sottise d'une société qui est la différence. Les pauvres, les gays, les gros, les vieux, Ariel Dombal. Et juste pour qu'on ressemble tous à des petites poufs malingues sur Instagram qui jouent les naïades avec 60 filtres. Donc arrêtons de blesser l'autre. Et Héloïse Martin, t'es belle. Trop jeune pour que je te dise ça, mais belle.
Merci Tony Bastien.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Nous parlons avec Olivier Marchal des rivières pourpres, c'est-à-dire la déclinaison de la marque, en fait, c'est ça, parce qu'il y a eu un roman, il y a eu un film, l'adaptation de ce roman, et il se sert de ce titre rivière pourpre, pourpre comme je vais y arriver, et non pas poutre, comme d'une
marque, c'est une autre histoire,
comme d'une marque et d'une déclinaison, tout ça autour du serial killer. Est-ce que
les
ça vous
pourpre. Nagui.
À suivre la semaine prochaine en prime time.
Est-ce que vous vous êtes posé la question de faire une série aussi autour de 36
okay. Bah c'est à l'étude. ouais, c'est à l'étude. Je voulais le faire déjà il y a longtemps. Je voulais faire au 36 quai des Orfèvres. Je voulais faire tous les services, c'est-à-dire une soirée à la Mondaine, une soirée au Stup, une soirée à la Crime, une soirée à la Berbée.
C'est la compta où on se fait un peu chier quand même.
Ouais.
Mais bon. T'imagines le 36.
Oui, au quart de gris. Non, mais avec les 6-7 services, les 7 brigades, avec des comédiens différents, un super. Peu comme Trou Détective, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on est à l'étude parce qu'il y a Edgar Marie qui a co-écrit le gang des Lyonnais, ouais. Et moi va faire la même chose sur le banditisme. Et on voudrait lancer les deux.
Génial. Alors,
pour l'instant, vous êtes les premiers à qui j'en parle, parce qu'on en a parlé à aucune chaîne.
Vous allez le produire?
Mais non.
Le réaliser?
J'aimerais bien le réaliser. Ouais.
Vous voulez pas le produire?
Non, ah bah, je suis pas producteur.
Laissez-moi le produire alors.
Bah, si vous voulez.
Allez.
Allez, hop, on fait des voilà,
on fait du business.
Voilà. Voilà. Tranquille, la guillemette. Non, mais
c'est
court, le gars.
C'est pas ça, c'est que je trouve l'idée.
Je suis pas producteur.
L'idée, je la trouve extrêmement bonne, efficace, et puis pardon, mais juste de l'entendre.
Non, mais moi, il n'y a pas de souci, j'aimerais bien jouer un jeune flic.
Non, tout le monde,
ça sera.
Toi, ça sera ça. Toi, c'est Serial Killer, je te jure, t'as été casté, c'est Serial Killer.
D'accord, mais je veux bien aussi.
Est-ce que.
Moi, je vais être jeune fille abusée, moi.
Ce que je veux dire, Olivier. Olivier, ce que je veux dire, c'est que c'est. Ce qui m'inquiète, c'est le pot de fin de tournage avec, d'ailleurs.
Oui, les huîtres.
Moi, je mange la coquille.
Ce que je veux dire, c'est que c'est. On voit immédiatement l'efficacité de la série. Si on entend 36 Quai des Orfèvres, la série, c'est une marque.
Après, ils y sont plus et tout, mais on sait qu'il reste la BRI, il reste le petit gang. On fait une soirée, si on fait 2 fois 52 minutes, ou même on peut faire des mini-séries sur chaque brigade.
La police n'est plus 36 Quai des Orfèvres, sauf que tout le monde sait ce que veut dire cette marque.
Bien sûr,
36 Quai des Orfèvres, c'est ça la force. Aussi, c'est ce que Granger a fait avec les rivières.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Moi, je veux bien être un juge.
Non, mais arrêtez.
Non,
ça s'est fait ici. On a.
Ses affaires.
Alors là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Comme je produis, c'est moi qui décide si vous venez ou pas
à la
série. En tout cas, avec Nagui et Leïla, vous avez deux bonnes têtes de garde à vue.
Ça y est.
Voici le...
Le quoi ? Ah, il est paumé.
Oh là là, oh là là, il se change.
Ah, ça y est.
Oui, il se change. Le dépôt de bilan de Frédéric Sigrist.
Bravo.
La salle.
Ben non,
Jean
Nagui, non, Fred n'est pas là. Il a décidé de laisser la parole à Stéphane. Stéphane Blanchard. Un gilet jaune.
Bonjour monsieur Nagui. Je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer sur le service public parce que ça
vous êtes donc là parce que vous êtes opposé à la hausse des prix du carburant, c'est ça?
Non, pas du tout, j'ai pas le permis.
Ah, okay.
Non, moi je suis opposé à la hausse annuelle du temps de parole de Nagui. Parce que depuis 5 ans, à chaque saison, ça augmente. C'est bien simple, le chroniqueur de base, il a absolument plus les moyens d'en placer une. J'ai ici un relevé qui dit très clairement en 2015, en moyenne, une question de Nagui, c'était 2 à 3 minutes la question. Sur 1h30 d'émission. Une question de Nagui, ça équivalait à une poche de publicité sur une chaîne privée, ça te laissait le temps d'aller pisser, tout ça. Aujourd'hui, une question de Nagui, c'est 7 à 8 minutes pour le même temps d'émission. Comment on fait? Comment on vit, nous, hein? Vous savez comment on appelle une virgule dans une phrase de Nagui, monsieur Morin?
Non.
Un invité. Ah. Et j'exagère pas du tout, la preuve.
Et je voulais juste finir ma phrase et qu'on
voilà.
Je
crois que c'est fini.
Voilà. Et vous vous rendez compte, Nagui, c'est le seul animateur qui t'oblige à prendre une correspondance pour pouvoir arriver au bout de la question.
Je finirai tout à l'heure.
Et puis la promo des films. Je suis désolé, monsieur Nagui, je vous aime bien avec votre émission, tout. N'oubliez pas les paroles. Mais ici, oubliez-les un peu, quoi. Je veux dire, la promo des films, c'est plus possible. C'est plus des pitchs. C'est des audio-descriptions. J'ai un ami malvoyant, depuis qu'il écoute Nagui, il a l'impression d'avoir une carte UGC illimitée tellement il raconte les films. Et même les invités, ils s'en rendent compte.
Ah oui, il dit vraiment tout.
Même monsieur Quéron, petit patapon. Oui, parce qu'on a aussi de l'humour chez nous. Eh ben, il l'a dit.
Je vous explique l'origine du morceau. C'est un peu long et chiant, mais je peux le faire si vous voulez.
Ah bah, avec plaisir.
J'ai remarqué qu'à chaque...
Merci.
Je veux dire, il y a autant de mystères autour du film dont vous parlez que dans un Jackie et Michel. C'est plus de la promo, c'est de la délation. Et le pire, c'est que quand les invités essaient de s'expliquer, bien, comme on l'a entendu, ça tourne à l'assassinat. Alors du coup, quand il arrive que vous donniez la parole à un chroniqueur, forcément, eux, ils ont plus l'habitude.
Tu peux t'éteindre, Rosé, mais pas t'embraser. Non.
Ah, joli lapsus.
Voilà, ils savent plus parler. Hein. Et on sent bien qu'il y a des chroniqueurs, ils avaient fait vœu de silence, ils sont plus habitués à l'oralité. Ils remontent l'escalator qui mène au langage en sens inverse.
Je me dis, ouais, j'avais pas laissé se brûler dans ma Citroën, tu vois, bonne réponse, 88, bien joué, mon motus, tu vois.
C'est à vitesse normale.
C'est à vitesse normale. Tu passes Guillermo Guise à l'envers, il t'invoque le diable. Et alors, en plus, quand vous parlez pas tous en même temps, parce que les auditeurs s'en plaignent, hein, ils le disent, ah, oh, c'est pas possible, à la bande originale, vous parlez tous en même temps, du coup, on sait pas qui est le plus con, enfin, c'était terrible. C'est pourquoi moi je dis, il faut bloquer l'antenne.
Vous allez faire grève ?
Surtout pas, parce qu'ici, à France Inter, quand ils font grève, ils passent la playlist. Et je pense que le pays va assez mal, il a pas besoin de ça.
Oui, mais Leïla et moi, nous, quand on présente, c'est notre gueule tout de même, on incarne vachement bien l'esprit Inter.
Oui, enfin, quand vous dites Inter, vous pensez à Intermarché, hein, parce que, ou la cuisine des mousquetaires, parce que cette semaine, j'ai écouté, même si les véganes deviennent branchés, on en a quand même pas beaucoup autour de la table.
Hein. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit cochon?
Alors, un jambon, deux saucissons.
Voilà, c'est la vie, c'est le cycle de la vie.
Voilà, le cycle de la vie pour un cochon, c'est de terminer en saucisson.
Oui.
Ah ben, super, vraiment, c'est beau, ça se la joue écolo. Oui, on boit plus dans des bouteilles en plastique, tout ça. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le cochon? Un petit jambon. Voilà, Charal, sponsor officiel de la bande originale de l'association L214. Ils vont vachement apprécier.
Oui, enfin, excusez-moi, monsieur Planchin, mais vous nous présentez à nous sous l'étiquette des Gilets jaunes. On a constaté pas mal de débordements durant cette semaine. Agressions racistes, homophobes commis par des Gilets jaunes. Vous vous sentez pas un peu responsable?
Pourquoi je me sentirais responsable?
Bah,
si.
Bah, pourquoi? Quand un animateur de radio dit une connerie, c'est vous qui dites pardon? Bah, bien sûr que non, hein. Comme dirait Jean Lassalle, notre nouveau porte-parole. Ouais, je sais pas, mais à mon avis, c'était vachement sympa. Non, parce que je vais vous dire un truc, monsieur Morin, à propos des Gilets jaunes. Parce qu'il y en a marre quand même de votre désinformation constante sur le service public, genre on est des blaireaux, etc. Faut arrêter avec ça, hein. Parce que c'est pas parce qu'on porte tous la même tenue qu'on est tenu de pas savoir se tenir. Ouais, je vous laisse là-dessus.
Bravo. Bravo.
France Inter, la bande originale avec nous.
Les rivières pourpres avec Olivier Marchal.
Poutre.
Erika Sainte, Ken Duquesne, Nora Wallstatten, Camille Sanster, Daniel Jolobé, Nicolas Grandhomme, Pierre Laplace, Jean-Luc Couchard, Karim Barras, Lubna Azabal, François Levental, Patrick Catalifo, Steve Drizen, Michael Herpelding, un joli casting avec de bons comédiens. Non, mais parce que ça joue
exactement.
Bien.
Exactement. Non, mais je voulais le dire aussi. C'est bien de le souligner parce qu'on les oublie trop souvent, mais tous les guests qui sont venus, pas les second rôles, parce que c'est les rôles, il y a pas de second rôle, mais tous les personnages autour, enfin, à la périphérie des rôles de flics sont des super acteurs.
Qu'est-ce qui fait la force de ces rivières pourpres, à votre avis? Par rapport au
casting exceptionnel. Non,
ça change tout.
La force, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est déjà le côté visuel, le côté, je pense que le public est toujours très intéressé par, encore ces meurtres, toutes ces choses, tout le clésé, toutes ces sectes. Et voilà, je pense que ça va venir de là.
Non, mais c'est ce que l'a dit tout à l'heure.
C'est qu'on peut avoir pour le couple aussi, c'est ce que nous ont dit les journalistes.
C'est vrai.
Ouais, la presse est assez,
positive.
Assez positive. Enfin, elle est assez. Je crois qu'ils aiment bien la série. Après, il y a une deuxième saison qui est en écriture là pour l'instant.
Déjà.
Normalement, on devrait tourner l'année prochaine la suite, mais on va aller un peu plus dans le perso. Ça manquait peut-être un petit peu de perso sur les personnages, je sais que les auteurs travaillent là-dessus.
Oh bah, on sent déjà que la vie privée d'Erika Sainte n'est pas simple, et on sait déjà qu'il y a quelques fêlures dans votre personnage.
Oui, mais je pense qu'ils veulent aller un peu plus loin là-dedans.
Creuser.
Quoi, et tout ça, voilà.
Oui, c'est l'occasion de développer. Et puis, comme vous l'avez dit, justement, c'est qu'on n'est pas dans une brique, enfin, on n'est pas entre quatre murs, enfermés, où on voit toujours un peu les mêmes scènes. Et en ce sens-là, je trouve que ça renouvelle vraiment le genre.
Ouais.
Vous, ce que vous écrivez en ce moment, est-ce que c'est autour de la police aussi? Vous essayez de casser un peu les clichés, parce que finalement, c'est quand même le genre le plus vu à la télévision, les séries policières.
Je sais, là, j'ai fait un polar qui va se passer à Marseille. Ça s'appelle Bronx. Et c'est rivalité, moi ce que j'aime bien, entre les services, sur fond de guerre entre les Corses et les Arabes, avec ce qui se passe à Marseille, quoi, pour le contrôle de la CAM et tout. Donc voilà, avec il y a toujours un flic ripou, parce qu'il n'y a pas de bon polar sans flic ripou.
Ouais.
Avec manipulation. Moi, je suis sur l'humain dans mes films, il n'y a pas d'enquête. Donc moi, je suis sur les personnages. Je pense que mes films, ils ont marché parce que on est sur l'humain, quoi. Les enquêtes, je m'en fous, moi. Moi, je suis sur les choses qui leur arrivent.
Dans les rivières, il y a des enquêtes et l'humain compte aussi beaucoup.
Non, mais bien sûr. Oui, mais parce que je pense que
l'un n'empêche pas l'autre. Si.
Non, mais je pense qu'avec Erika, on fait un couple de ce qu'on nous dit, qui est attachant, quoi. Il y a un rapport père-fille aussi qui est assez nouveau. C'est-à-dire dans n'importe quelle série, le flic, ils auraient baisé ensemble. Là, ça n'est pas. Il y a juste une scène à un moment donné où je la prends. Il y a une ambiguïté juste à un moment donné. Je la prends dans mes bras. On est dans le passionnat. On est dans un dortoir tous les deux. Mais c'est voilà. Dis-moi s'ils se refusent à ça parce que. Il voudrait pas. D'abord, ça serait une erreur. Puis à l'âge, puis on en joue. Nous, on en plaisantait sur le plateau, mais moi aujourd'hui, je suis vieux, quoi. Donc, c'est vrai que non, mais c'est facile d'avoir des relations avec des femmes plus jeunes, mais c'est pas bien. Ça sert à rien.
Voilà. Vous avez d'autres projets, notamment le 27 novembre à 21h sur W9, il y aura pour la première fois en prime time et la petite histoire de France. Oui. Pendant 90 minutes, on découvre trois épisodes dans cette série et vous incarnez le père d'Isabeau,
oui.
C'est ça, un ancien soldat devenu mercenaire. C'est une comédie, hein.
C'est oui, je suis en armure et tout. Non, mais on a rigolé, hein. Il veut recruter une armée pour aller libérer Jeanne d'Arc.
Jonathan Lambert, ouais. Charlotte Gawiz, ouais. Jamel Debbouze, Thomas VDB.
Albert Ivanov, qui fait mon gendre. Donc, mais on est deux abrutis, quoi. En fait, c'est et moi, je fais un dingue, quoi. Un chevalier complètement givré. Donc, on s'est beaucoup amusé.
Vous aviez évoqué la possibilité de faire un remake de Police Python.
Je finis d'écrire Bronx là et après je me mets sur l'écriture de Police Python. Voilà, et je suis aussi sur un projet de film sur Michel Néré
Ça vous nous l'aviez dit aussi à ce micro,
ouais,
Flic, votre copain de Lyon.
Voilà, donc ça c'est écrit, on a encore du retravail.
Ça sera un film partisan. C'est votre pote.
Ouais, c'est mon pote, ouais. Oui, puis j'ai envie de défendre les flics, quoi. Je les aime, moi. C'est ouais, trop de gens qui les aiment pas et je voilà, Michel, après il a reconnu ses erreurs, hein, il est tombé sur, je pense, un mec plus intelligent que lui pour une fois, parce que c'était un flic brillant, non, mais il est tombé sur une crapule qui lui a joué à l'amitié. Et Michel, en fait, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que ça a été un grand patron de l'anti-gang, et que quand on lui a confié une autre responsabilité où il s'est retrouvé directeur central, enfin directeur de la PJ, pas directeur central, il s'est retrouvé dans un bureau à se faire chier. Donc lui qui était un mec d'un ascétisme, qui était un flic solitaire, qui réglait, qui avait une manipulation des voyous, qui a géré quand même tout le banditisme de Marseille à Grenoble en passant par Lyon, il a fait tomber toutes les plus grosses équipes, il s'est retrouvé à se faire chier dans un bureau et il a commencé à sortir la nuit. Pour raconter un peu, pour exister encore. Et c'est la nuit qu'il a perdu, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant à traiter dans un film. Mais ça reste un mec intègre. C'était pas un ripou, il s'est pas enrichi. Il a déconné, quoi, c'est tout. Mais c'est pas... un ripou, c'est un mec qui va braquer, qui va... Comme l'affaire des ripous de Lyon, qui braquaient des convois, qui ont flingué deux convoyeurs de fond. C'était des flics, quand même, à l'époque. C'est Michel qui les a arrêtés, d'ailleurs.
Position,
c'est Michel, voilà. Donc, il se faisait passer pour les postiches. Ça, c'était des vrais ripous. C'était...
L'enchaînement est tout trouvé. Daniel Morin.
Ah, ça y est.
Des excuses à
présenter. Daniel, il reste quoi, là?
Bon, désolé pour nos auditeurs de gauche, hein, qui ont été choqués, même violentés, par Nagui quand il a dit « Il faut laisser le rêve de la police ». Ah, Nagui, t'es bon. T'es bon pour RMC en radio courtoisée, hein. Allez, salut l'artiste, on t'aimait bien. Désolé pour Alexis Le Rossignol, qui, en plus d'avoir une bonne tête de délinquant sexuel, a appris ce matin qu'il allait être, je cite, se faire prendre par Nagui. Alors, comment te dire? D'après Leïla, c'est bizarre au début parce que c'est tout petit. Et après on oublie parce que c'est tout petit.
C'est n'importe quoi.
Et je suis désolé pour tous ceux qui luttent contre les clichés, comme par exemple les acteurs et les flics sont tous des alcoolos. Enfin bon, pouvez-vous nous rappeler, Olivier, comment s'appelle le régleur, le chorégraphe de la série des Rivières Pourpres?
Gilles de Murger.
Le Murger, voilà.
Il faut rien lui donner, quoi.
Lundi, Louise Bourgoin et Alice Belaïdi, justement, pour parler d'Hippocrate, seront nos invités. Merci beaucoup, Olivier
merci
Marchal.
C'est
bravo.
Un plaisir à chaque fois.
C'est lundi qu'on retrouvera donc sur France 2 à 21h, c'est Rivière Pourpre. Et puis nous, on retrouve tout de suite maintenant Nicolas Stouffler.
Tiens, dimanche, on reçoit une flic.
Alors attends, je finis. Ouais, je donne 1000 euros spécial à l'occasion de l'événement Radio France Fête le Livre ce week-end à la Maison de la Radio. Ouais, ouais. Et ce sera juste après le titre du journal de Bruno Duvic. Tu voulais dire quoi dimanche,
oui,
17h.
Vous les femmes, avec Agnès Snowdin, capitaine de police qui a écrit Affaire de famille et qui va rencontrer, je crois, notre ami Olivier Marchal.
Oui, tout à l'heure, oui.
Voilà, et Clara Luciani pour son album, son premier album, 5 victoires.
Ah,
voilà.
J'adore. Embrasse-les pour moi. Avec bonne plaisir. Journée, bon week-end sur Inter. Merci.